Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Audrey Galil. Premier temps d'une nouvelle série consacrée au déconfinement des colères, aux luttes sociales, politiques, un tout petit peu reléguées au second plan ces derniers temps pour cause de Covid-19. À mesure que les pays allègent leurs restrictions, les manifestants reprennent les rues et poursuivent des mouvements stoppés par la pandémie. Demain, nous nous pencherons sur Hong Kong et sa lutte ravivée pour défendre la démocratie. Mercredi, direction l'Algérie pour reprendre tant bien que mal le Irak. Et enfin, jeudi, le Liban où la crise sanitaire n'a pu faire taire la crise sociale. Mais d'abord, place aux États-Unis, traversée, on le sait, par un immense mouvement de contestation contre les violences policières.
Breaking news story out of Minneapolis, chaos overnight, protests continuing, and you're looking at video of a Minneapolis police station that was set ablaze late last night.
Ce pays est un pays de merde. Il a toujours utilisé des esclaves pour les tuer ensuite ou les déposséder de leurs droits, les priver d'humanité. Il s'est construit pour donner des privilèges aux blancs de manière systématique.
On ressemble à des êtres humains qui en ont marre de toute cette oppression, de toute cette haine, du racisme, du sexisme, du sectarisme. On n'en peut plus! Battez-vous pour l'égalité, on va y arriver.
It was not the coronavirus.
Ce n'est pas le coronavirus qui a tué George Floyd, c'est une autre pandémie avec laquelle nous sommes beaucoup trop familiers en Amérique. Racisme et discrimination.
Voilà, cette colère, on l'entend de Minneapolis à Washington, montage réalisé par Benjamin Hu. Le 25 mai dernier, à Minneapolis, justement, George Floyd, un noir américain de 46 ans, meurt sous le genou d'un policier blanc. La scène se déroule en plein jour, en pleine rue, et sous l'œil d'un téléphone qui va filmer la scène. La vidéo montre un plaquage ventral infligé par le policier pendant 8 minutes et 46 secondes. Une séquence qui fait le tour du monde, du pays aussi évidemment, et soulève une vague d'indignation. Depuis, les manifestations se poursuivent un peu partout, les couvre-feux s'installent et la colère peine à retomber tant l'exaspération face aux violences policières est devenue insupportable. Une colère alimentée par un Donald Trump qui, plutôt que d'appeler au calme et à l'unité, préfère jouer sur les divisions et insister sur la rhétorique sécuritaire, considérant peut-être qu'elle pourrait bien le servir lors de l'élection présidentielle de novembre prochain. Mais ce calcul politique est-il tenable et à quel prix ? Comment la question raciale pourrait-elle peser sur le prochain scrutin alors que le pays doit faire face à une crise sociale et économique majeure due à la pandémie ? Et peut-on espérer des évolutions sur le plan des violences policières ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Caroline Roland-Diamond. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne et professeure à l'Université Paris-Nanterre. Vous aviez écrit à La Découverte en 2016 « Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice 19e-21e siècle ». Avec nous également Didier Combeau, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, chercheur associé à l'Institut des Amériques. Vous aviez vous signé il y a quelques années chez Gallimard Police Américaine et vous signez tout juste, c'est sorti la semaine dernière chez Gallimard, « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle ». On va commencer avec vous, peut-être, Caroline Roland-Diamond, parce que vous êtes évidemment historienne et que on répète à l'envi depuis plusieurs jours maintenant qu'il y a quelque chose d'historique dans ce mouvement qu'on voit du côté des États-Unis. Malheureusement, la liste des bavures policières ne cesse de s'allonger et on a affaire à, au fond, un cas que l'on connaît bien aux États-Unis. Les bavures policières, elles ont été très nombreuses. Qu'est-ce qui fait que là, il y a quelque chose d'exceptionnel ? D'abord, est-ce que vous pensez qu'effectivement, on est dans quelque chose de l'ordre d'une rupture historique ? Et pourquoi, finalement, ce cas Floyd n'est pas tout à fait comme les autres ? Caroline Roland-Diamond.
Eh bien, je pense qu'effectivement, là, nous avons affaire aujourd'hui à un événement d'une ampleur inédite et qui peut constituer une rupture historique. Vous l'avez rappelé, la liste des bavures policières est extrêmement longue et elle est longue depuis toujours, j'ai envie de dire. On s'inscrit dans une très longue histoire d'oppression, de répression policière de la population noire, visant en particulier les hommes africains-américains de tous âges. Mais là, donc il y a eu au fil de l'histoire des protestations répétées, toujours justifiées et fondées sur cette colère viscérale qui anime la communauté africaine-américaine depuis toujours. Mais là, aujourd'hui, l'ampleur des manifestations qui touchent des villes qui généralement ne sont pas touchées par des protestations et l'ampleur des manifestations, le panel très large des participants, aussi bien sur le plan de l'âge que sur le plan de vue, le plan de l'identité ethno-raciale. On voit de très nombreux blancs dans les manifestations. Ça, c'est complètement, c'est complètement nouveau.
On reviendra justement sur, effectivement, peut-être une alliance nouvelle, inédite entre les libéraux noirs et les libéraux blancs. Je fais référence à une tribune qui a été publiée dans Le Monde il y a quelques jours par Pape Ndiaye et je voudrais vous entendre sur ce point. Mais d'abord, Didier Combeau, est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, pour dire qu'il y a quelque chose d'historique? Qu'est-ce qui l'expliquerait? C'est vrai qu'on a un certain nombre d'observateurs qui disent qu'on n'a jamais vu ça, en tout cas, pas depuis les fameuses émeutes de Baltimore d'avril 68. Qui avait éclaté après l'assassinat de Martin Luther King. Est-ce que il vous semble que ce parallèle est pertinent, Didier Combeau?
Oui, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se produire. On a vu des policiers blancs, par exemple, qui s'agenouillaient en solidarité avec les victimes afro-américaines. On a appris ce matin que la ville de Minneapolis envisageait de démanteler sa police, ou qu'en tout cas le conseil municipal avait voté pour ça. Donc on sent quelque chose de nouveau. En même temps, il faut quand même être prudent, parce que depuis longtemps, les villes essaient de réformer leur police, et les départements de police essaient de se réformer. Tout particulièrement depuis, d'ailleurs, qu'il y a les images depuis Rodney King en 91, et puis plus récemment, depuis que les actions de police sont souvent filmées par téléphone portable. La ville de Minneapolis, par exemple, avait nommé en 2012... une femme chef de police, une femme gay et une femme qui était d'origine indienne. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pendant 5 ans pour essayer de réformer le département de police, sans y parvenir. Et en 2017, elle a dû démissionner parce que un policier afro-américain, pour le coup, avait tué une jeune femme australienne qui avait elle-même appelé la police parce qu'elle entendait du bruit autour de chez elle. Et donc, ces efforts de réforme, ils existent depuis quelques années maintenant, et les départements de police sont des machines si lourdes que ces réformes n'aboutissent pas et ne donnent pas d'effet mesurable.
On reviendra, Didier Combeau, évidemment, sur cette difficulté à réformer les institutions policières. Caroline Roland-Diamond, peut-être une réaction sur ce parallèle historique que je faisais avec 68. Il y a peut-être une autre séquence qu'on pourrait introduire. C'est l'année précédente, 1967, avec cette descente de police dans un quartier noir de Détroit qui va être un drame, puisqu'il y a 43 morts quand même à la clé. Pendant des semaines, on va avoir des violences qui vont se poursuivre. Est-ce que vous pensez qu'un tel scénario pourrait se répéter, parce qu'à l'époque, il y avait eu des semaines et des semaines et des semaines de contestations, de violences extrêmement difficiles. Les Américains ont gardé en tête ce qu'ils appellent l'été brûlant. Vous pensez qu'on pourrait avoir du côté des États-Unis un été brûlant comme en 1967?
Je ne sais pas si on va avoir un long été brûlant comme en 67. L'ampleur des manifestations telles qu'on les voit aujourd'hui peut nous amener à penser que le mouvement va continuer à s'amplifier. La difficulté va être de poursuivre cette mobilisation dans la durée. Donc là, on a entendu qu'il y avait un appel à une grande mobilisation pour le mois d'août, en commémoration avec la grande manifestation à Washington dans laquelle Martin Luther King avait prononcé son grand discours « I have a dream ». Donc le parallèle est en train d'être construit entre les événements actuels et cette période de la fin des années 60 qui était le dernier grand moment d'une mobilisation à l'échelle du pays contre des violences policières. Vous mentionnez l'exemple de Détroit qui est tout à fait caractéristique, mais qui s'est transformé en un vaste soulèvement qui a entraîné un nombre considérable de morts et qui finalement ne s'est pas soldé par les réformes de fond qu'on aurait pu espérer. Alors, est-ce qu'on va avoir une mobilisation d'une même ampleur? C'est possible, c'est même vu l'orientation qu'on est en train de prendre, ça semble même peut-être probable, mais est-ce que les États-Unis, les collectivités locales et au niveau fédéral vont-ils arriver à se saisir de cette opportunité historique, de ce moment historique, pour enfin mettre en place les réformes de fond qui s'imposent pour résoudre cette question des inégalités raciales, des violences policières qui mine ce pays depuis tant d'années.
Didier Combeau, vous êtes un spécialiste des polices américaines. Vous aviez écrit, je le disais tout à l'heure, cet ouvrage « Police américaine » au pluriel qui était paru chez Gallimard. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous faire un tout petit état des lieux de la situation, le bilan des bavures policières et l'évolution ces dernières années? Et puis, on va essayer de comprendre avec vous comment se fait-il qu'on ait si peu de résultats dans la lutte contre ces violences policières. On parle évidemment de George Floyd, l'homme qui l'a tué, l'ancien policier Derek Chauvin, avait déjà son actif de très nombreuses plaintes le concernant, et pas une seule visiblement n'a fait l'objet de sanctions. On peut s'interroger sur ça. Comment se fait-il qu'au fond les commissariats américains ne font rien ou presque visiblement contre les policiers qui sont connus et reconnus pour des faits de violence?
Alors, ces violences policières, elles ont peu évolué au fil du temps. Mais on les connaît mieux depuis 2015. Pourquoi ? Parce que depuis 2015, il y a des organismes indépendants qui se sont mis à compter le nombre de personnes tuées par la police. Et on s'est aperçu que ça n'était pas 400 ou 500 comme le publiait le FBI jusqu'à présent. C'était environ 1000 à 1100 par an. C'était 1098 en 2019. C'est le Washington Post et le Guardian qui ont calculé tout cela sur la base non seulement des remontées des départements de police, mais aussi des rapports de presse et des remontées qui pouvaient leur être faites directement. C'est quelque chose que l'on arrive. On s'est rendu compte aussi, mais ça on le savait, que les Afro-Américains sont beaucoup plus victimes de bavures policières que les Blancs, et que les Hispaniques se situent grosso modo entre les deux. Cela dit, il ne faut pas quand même perdre de vue qu'il y a, au-delà d'un problème de racisme, il y a un problème de violence, car sur ces 1100 personnes qui sont tuées par la police, il y a environ 250 afro-américains, mais il y a quand même 75% de non-afro-américains également, soit hispaniques, soit blancs. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de violence au-delà du problème de racisme, et que le racisme et la violence viennent en quelque sorte se surinfecter. Et les policiers de surcroît bénéficient d'une part d'une immunité légale, d'une immunité qualifiée. Il faut, pour qu'ils soient condamnés, que l'affaire dans laquelle ils sont impliqués ait eu un précédent comparable dans la jurisprudence. Ils sont aussi jugés très souvent par des jurys qui sont majoritairement blancs. Et puis, il y a dans les départements de police une loi du silence qui fait une sorte de code d'honneur qui fait que les agents ont beaucoup de mal à dénoncer des collègues qui se livreraient à des abus.
Pardon, Didier Combeau, vous disiez qu'ils sont majoritairement jugés par des jurys blancs. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a peut-être un travail de réforme à faire aussi au niveau de la justice ?
Tout à fait. La réforme ne peut pas se centrer seulement sur les départements de police. C'est aussi une réforme de la justice criminelle. Parce que depuis environ 50 ans, depuis l'accession de Nixon au pouvoir, les politiques pénales sont devenues de plus en plus sévères. On se trouve aujourd'hui dans une situation où il y a à peu près 8 fois plus de personnes incarcérées aux États-Unis que dans la moyenne des pays européens, par exemple, et que les Afro-Américains sont incarcérés encore plus que cela. Un homme Afro-Américain sur 10 dans la tranche 20 à 34 ans est en prison. Ce qui a pour conséquence des familles qui sont disloquées, et puis une fois que la personne sort de prison, des difficultés d'accès à l'aide sociale, des difficultés à trouver un emploi, et donc ce sont des personnes qui risquent de replonger dans la délinquance, dans la violence, etc. À cela, il faut ajouter les armes qui sont en libre circulation et donc des policiers qui travaillent dans un environnement dangereux et donc qui risquent d'utiliser leurs armes de service plus qu'ils ne devraient le faire. Donc il y a aussi une réforme de la justice qui est nécessaire pour parvenir à limiter ces abus policiers.
Caroline Roland-Diamond, un travail à faire au niveau de la justice, un travail à faire au niveau des commissariats, des polices. Didier Combeau rappelait tout à l'heure qu'effectivement, du côté de Minneapolis, a priori, on va vers un démantèlement de la police. Alors, on va voir comment on reconstruit derrière le dispositif policier. Mais c'est vrai qu'il y a tout un chantier là à mettre en œuvre. Je ne sais pas quelles seraient les pistes intéressantes. Est-ce que, par exemple, intégrer davantage de Noirs dans les effectifs serait une solution intéressante? Est-ce que ça a déjà d'ailleurs été testé et avec quel type de résultats? C'est des questions qui vont se poser maintenant, Caroline Roland-Diamond.
Mais écoutez, alors je voudrais effectivement, donc je partage tout à fait ce que vient de dire Didier Combeau à l'instant, mais je pense qu'il faut ajouter également dans cette question ce facteur explicatif pour de la situation actuelle, il faut rappeler l'importance de la militarisation de la police. Mmh. Et cette militarisation de la police, donc qui est décriée aujourd'hui, elle s'est effectuée sur plusieurs décennies, en particulier depuis les années Reagan, depuis les années 80, période qui, comme le rappelait Didier Combeau à l'instant, a fait aussi l'objet d'un durcissement de tout l'arsenal pénal. Donc depuis les années 80-90, dans le contexte de la guerre contre la drogue, il y a eu une transformation de l'approche à la fois des forces de police et du système judiciaire et pénal, une approche qui s'est durcie et qui a abouti au phénomène que les historiens désignent par l'incarcération massive. Et donc on a cette question qui explique aujourd'hui des revendications à diminuer drastiquement les financements des départements de police comme voie possible de réforme. Parce que augmenter le nombre de policiers noirs ou hispaniques ou asiatiques dans les départements de police, ça a déjà été fait. On a tout un mouvement d'efforts de développer la diversité au sein de ces forces de police qui a eu lieu depuis la fin des années 60, des années 70, et qui ont porté leurs fruits. Même si aujourd'hui encore, quand on regarde la composition des départements de police de la grande majorité des villes américaines, on a toujours une proportion de policiers noirs, par exemple, qui est inférieure à la part de la population africaine-américaine à cet endroit-là. Donc il y a différentes pistes qui sont suivies, mais là, une piste qui me semble particulièrement intéressante, ce sont ces appels à réorienter les fonds publics, non plus vers une hausse constante du financement des forces de police, mais un réinvestissement de ces fonds dans toute une série de services sociaux qui permettrait de résoudre la plupart des problèmes pour lesquels les policiers sont appelés sur place.
Didier Combeau, justement sur cette piste, parce que Caroline Roland-Diamond le dit, au fond, ce qu'il faut, c'est démilitariser ces polices et réorienter les budgets. Est-ce que vous pensez, évidemment, je sais bien que vous allez nous dire que c'est souhaitable, mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que derrière cela, il y a aussi une véritable lutte politique, avec d'un côté, je fais à gros traits, mais d'un côté des démocrates qui sont favorables à cette réorientation, et de l'autre, des républicains, même si c'est pas si simple que ça, mais des républicains qui y sont opposés. Donc on voit bien qu'on va avoir une résistance politique très forte derrière cette aspiration, Didier Combeau.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une opposition entre démocrates et républicains, c'est aussi une opposition entre policiers en chemise blanche et policiers en chemise bleue. Les policiers en chemise blanche, qui sont les cadres de la police, les chefs de police, sont souvent très favorables à une réforme. Mais les policiers et leur association, d'ailleurs, leur association professionnelle des chefs de police américains, essaient de mettre en place des réformes. Mais le syndicat des policiers en chemise bleue, le Fraternal Order of Police, lui, est beaucoup moins favorable à ces réformes. Depuis plusieurs années, les départements de police ont essayé de mettre en place ce qu'on appelle le community policing, qui est, si vous voulez, la police de quartier, le fait que la police essaie d'établir des liens avec les associations locales, les commerçants, les écoles, etc., plutôt que de patrouiller en armes et patrouiller peut-être à pied plutôt qu'en voiture, par exemple, de manière à avoir plus de contact avec la population. Le policier de base n'est pas très favorable à ça parce qu'il ne veut pas se transformer en assistant social. Il veut continuer d'exercer le métier pour lequel il a opté.
Et ça marche, cette police de proximité? Est-ce qu'on a des études? Est-ce que quand on met en place des dispositifs de police de proximité, on a des violences policières qui baissent?
Pas véritablement. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à se mettre en place. C'est souvent un service parmi le département de police qui s'occupe de police communautaire et non pas alors communautaire au sens pas au sens français du terme hein, de police de quartier, je veux dire. Et très souvent donc c'est un service à part. Ça n'est pas l'ensemble des policiers qui patrouillent et donc ça n'est pas très très efficace. Et puis il y a des blocages syndicaux dans la mesure où les syndicats de policiers ont la main sur les mutations de policiers et donc la hiérarchie ne peut pas muter les policiers comme ils le souhaiteraient dans les différents services. Mmh. Donc c'est assez difficile à mettre en place.
Caroline Roland. Oui, je vous en prie, vous voulez poursuivre.
Oui, effectivement, j'irai dans le sens de Caroline Roland-Diamond pour la question des minorités dans la police. Hein. Il est bien sûr tout à fait souhaitable qu'il y ait de plus en plus d'Afro-Américains, de femmes, d'Hispaniques, etc. dans la police. Ça s'est fait effectivement au cours des dernières décennies. Mais c'est loin d'être suffisant. C'est nécessaire, parce que d'autre part, ce sont de bons métiers hein, qui permettent une promotion sociale des gens qui rentrent. Mais la police de Détroit, par exemple, qui est majoritairement afro-américaine, a été accusée de discrimination et a fait l'objet d'une enquête de la justice fédérale. Donc, ça n'est pas suffisant.
On va avancer avec vous, Didier Combeau, et vous, Caroline Roland-Diamond. Mais avant, je voudrais qu'on revienne un instant sur cette séquence où Donald Trump se déplace devant cette église de Washington, l'église Saint John, où il y avait eu quelques heures plus tôt un départ d'incendie. Il s'y rend à pied, Bible à la main, entouré d'une partie de son gouvernement, ministre de la Défense, de la Justice, son chef d'état-major. Écoutez.
Notre pays est un grand pays, le plus grand du monde. Et nous allons le rendre encore plus grand. Ça ne prendra pas longtemps. Et vous voyez ce qui se passe ? Le pays va devenir plus grand encore, plus grand qu'il ne l'a jamais été.
Voilà, donc des micros qui captent de loin séquence avec un Donald Trump qui joue la carte de l'ordre et de la loi. Caroline Roland-Diamond, que vous inspire cette séquence ? Qu'est-ce qu'elle nous dit de la manière dont Donald Trump pourrait chercher à utiliser politiquement les événements qui sont en train de secouer son pays en vue évidemment de la prochaine élection présidentielle ?
Bien, ça m'inspire un peu de... Je ne sais pas comment le qualifier de désespoir devant un tel effort de manipulation d'événements aussi tragiques.
Ma question portait moins sur un jugement de valeur que sur l'efficacité ou non politique de la chose. Hein.
Cette analyse. C'est vrai que parfois on est voilà à force d'entendre, de voir les images, d'entendre répéter les déclarations de Trump, mais on voit bien. On assiste à une montée. L'expression de voix dissidente au sein du camp républicain. Colin Powell par exemple est la dernière en date, mais
qui a dit qu'il ne voterait pas pour Trump.
Son discours, exactement. Ouais. Qu'il ne pouvait pas, précisément à la suite de cet épisode de récupération d'utilisation de la Bible à des fins politiques, qui a été décrié au sein du camp républicain. Cela dit, ce type de discours où Trump se présente comme le représentant de la loi et de l'ordre, en essayant de se mettre dans une filiation, hein, donc en revenant aux années 60 à Nixon, qui se présentait comme le porte-parole de la majorité silencieuse. Des Américains, ce type de rhétorique a déjà apporté ses fruits à de multiples reprises et peut encore mobiliser un électorat républicain qui est très majoritairement blanc. Et donc, même si, vu de l'extérieur, on peut avoir une réaction un peu épidermique comme je viens de la voir face à ce genre de déclaration de Trump, il ne faut pas négliger le fait que c'est Trump a réussi à être à se faire élire en 2016, il peut essayer de réussir, au moins tenter un nouveau hold-up sur les prochaines élections. Et il faut voir que, là, on parlait à l'instant des démocrates. Les démocrates, même si Joe Biden, maintenant, a pris position en soutien au mouvement pour une réforme contre les violences policières, il faut rappeler que Joe Biden, dans les années 90, était l'un des démocrates les plus à la pointe des politiques répressives. Il avait soutenu ces lois, cette réforme de 94 de l'arsenal de l'arsenal juridique pour lutter contre la criminalité. Et il s'était fait, à l'image d'un Bill Clinton, hein, le chantre de politiques répressives.
Et donc là, il avait participé de la militarisation des organes policiers que vous dénonciez à l'instant.
Oui, oui. Et donc là, dans le contexte actuel et à l'approche de la prochaine élection présidentielle, Joe Biden transforme son image. Il a eu un petit peu de mal, mais là, ça commence à prendre forme et le message semble porté, qu'il a évolué, qu'il a changé de politique. Mais il n'a pas exprimé de regret. Bill Clinton, plus tard, après avoir soutenu dans les années 90 ce type de réforme répressive, plus tard, beaucoup plus récemment, a dit que ça avait été une erreur. Et bon, Joe Biden, on n'a pas encore cette affirmation d'un changement total de vue sur ces questions. Peut-être que ça va venir à l'approche des élections. Donc il ne faut pas oublier que le Parti démocrate, même si on ne peut pas opposer les républicains et les démocrates si simplement. Mmh. C'est plus complexe. Le Parti démocrate, depuis les années 90 en particulier, a lui aussi fait son virage conservateur. Et même si là, ce sont les démocrates les plus à gauche, les plus progressistes qui donnent de la voix et que ça commence à se propager au sein de l'ensemble du Parti démocrate. Il ne faut pas oublier que ce Parti démocrate, depuis 30 ans, a lui aussi très fortement modéré ses positions et renoncé au soutien aux politiques progressistes qui étaient typiques des années 60.
Oui, évidemment, Joe Biden, il incarne au fond le bloc centriste de ce camp démocrate et pas l'aile gauche. Didier Combeau, sur ce que disait Caroline Roland-Diamond, c'est-à-dire ce Trump qui se place comme ça en porte-parole de la loi et de l'ordre, qui joue sur la rhétorique sécuritaire. C'est vrai qu'il y a 4 ans, 2016, c'est une tactique qui avait parfaitement fonctionné. Est-ce qu'il peut refaire le coup cette fois, Didier Combeau?
Alors effectivement, il en appelle à sa base, hein, aux gens qui constatent effectivement, par exemple, que les Afro-Américains sont plus victimes de violences policières que les Blancs, mais qui estiment que ça n'est pas si anormal que ça, dans la mesure où il y a plus de délinquance dans les quartiers Afro-Américains que dans les quartiers Blancs. Donc c'est à cette base qu'il en appelle. Maintenant, je crois que la situation est quand même assez différente de 2016, puisque en 2016, il faut pas oublier que lorsque les gens votent, ils votent certes pour une personne, mais ils votent aussi souvent contre l'autre. Et lorsqu'on parle à des Américains qui ont voté Trump, ils disaient oh, « moi j'ai voté Trump, je l'aime pas beaucoup, mais c'est mieux quand même qu'Hillary Clinton ». Et ceux qui ont voté Clinton, parmi ceux qui ont voté Hillary Clinton, beaucoup ont voté également contre Trump. Mais Hillary Clinton était une représentante de l'establishment, c'était une femme, etc. Là, il va se trouver, Donald Trump, en face de quelqu'un qui lui ressemble beaucoup plus et qu'il va avoir du mal à transformer en épouvantail, parce que Joe Biden, c'est un homme blanc qui a à peu près le même âge que lui, qui est relativement centriste, qui, effectivement, comme le disait Caroline Roland-Diamond, a été en faveur par le passé de politiques répressives. Et donc, ça n'est pas Hillary Clinton qui est en face de lui. Donc, ça va être ça ne sera peut-être pas aussi efficace cette fois-ci, on peut le penser, mais il est toujours difficile de faire des prévisions.
Oui. Pensons-nous peut-être quelques minutes sur les militants de la cause noire. Il y a évidemment ce mouvement très fort qui est né en 2013, Black Lives Matter, dans la lignée de l'acquittement de George Zimmerman, responsable de la mort de ce jeune noir, Trayvon Martin, en Floride. C'est une association qui s'était fait connaître notamment lors des mobilisations de 2014, après la mort de Michael Brown, ce jeune de 18 ans, lui tué par un policier du côté de Ferguson. L'une des spécificités de ce mouvement, c'est évidemment qu'il s'est construit, développé sur les réseaux sociaux, qu'il affiche une ambition d'horizontalité. Au fond, il n'y a pas de figure particulièrement forte. Il y en a évidemment, mais je veux dire, on revendique cette transversalité. Est-ce que réellement, il vous semble, Caroline Roland-Diamond, qu'il y a quelque chose de nouveau dans les modalités de la mobilisation, est-ce que d'ailleurs c'est forcément une force, parce que je disais il y a pas de figure. Quand on regarde dans les années 50-60, il y avait précisément de grandes figures qui portaient ces combats, hein. Martin Luther King, on l'évoquait, Malcolm X, Angela Davis, Rosa Parks, etc., etc., qui avaient une aura nationale, voire même internationale pour certains. Est-ce qu'au fond cette transversalité de Black Lives Diamond, c'est vraiment une force ou ça peut aussi être une faiblesse, Caroline Roland-Diamond?
Mais je pense que donc, déjà ce mouvement s'inscrit dans une tradition. Il y a toute une tradition de mobilisation. Justement, vous évoquiez à l'instant donc les grands noms des luttes pour l'égalité et la justice des années 60, mais derrière ces grands noms, il y avait le mouvement s'est fait par tous ces gens anonymes à la base, beaucoup d'hommes mais particulièrement un très très grand nombre de femmes qui, bien que inconnues du grand public, inconnues mais qui n'atteignant pas une notoriété ni nationale ni internationale, étaient les hommes et les femmes qui ont fait le mouvement. Il y a toute une tradition de mobilisation à la base, de gens anonymes, de mobilisation horizontale, qui refusent de se concentrer sur une seule question, même s'il y a une question qui domine sur un terrain particulier, à un moment particulier, mais qui établissaient des liens entre les différentes formes d'injustice, d'oppression, de discrimination, pour revendiquer enfin des réformes qui permettraient une justice et une égalité entière. Donc là, Black Lives Matter se place dans cette lignée, donc qui allait du mouvement des droits civiques au Black Power, et en particulier une filiation assez directe entre les mouvements du Black Power de la fin des années 60, début 70, et Black Lives Matter, avec ses revendications de nationalisme noir et de dénonciation du racisme institutionnel, du racisme systémique. Mais effectivement, qui dit mouvement horizontal sans porte-parole dit difficulté parfois à accéder aux médias. Alors là, on ne voit plus ça aujourd'hui. Au contraire, c'est grâce à la révolution des réseaux sociaux, il n'y a plus du tout ce problème d'accès qui pouvait exister auparavant. Et donc, il y a une multiplicité des voix. Et je pense que cette multiplicité des voix, elle peut être une force. Et elle est une force parce qu'elle permet d'exprimer la diversité des points de vue. Il n'y a jamais une seule situation qui domine, même si on a une répétition de problèmes. Ouais. Et donc là, ça permet d'exprimer cette diversité, de montrer qu'il n'y a pas, que derrière le problème des violences policières, se trouve un problème bien plus fondamental de persistance des inégalités, multiples, ouais, et qui s'expriment dans de nombreux domaines.
Caroline Roland-Dayman, et puis ensuite je vous donne la parole, Didier Combeau, mais est-ce que divergence des points de vue veut dire divergence dans les modalités d'action? Parce que vous faisiez référence au mouvement des années 50-60, il y avait quand même des divergences s'agissant de, par exemple, la question de la violence. Fallait-il ou ne fallait-il pas l'utiliser? Et il y avait, pour le coup, de grandes différences entre les différents acteurs. On a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a moins de différences sur les modalités. J'entends qu'il y a plusieurs points de vue, mais ils sont à peu près tous d'accord dans ces mouvements-là, s'agissant de la manière dont il convient de défendre la cause noire. Est-ce qu'en réalité, c'est pas une faiblesse là aussi, et est-ce que on pourrait voir une forme de radicalisation de ce militantisme compte tenu du fait que finalement les bilans des actions menées jusqu'ici sont pas forcément à la hauteur des espérances? Caroline Roland-Dayman.
Alors deux choses. Tout d'abord, je voudrais juste revenir un tout petit instant sur cette opposition entre violence et non-violence des années 60, qui en fait est une fausse opposition. Mm-hmm. Il faut bien voir que les mouvements non-violents, type ceux portés par Martin Luther King, en fait pratiquaient aussi à l'autodéfense armée. Mm-hmm. Et donc c'est une opposition qui a été surtout construite à la fin des années 60, début 70, par des mouvements conservateurs pour décrédibiliser toutes les revendications du Black Power. Donc ça c'est le premier point. Maintenant sur le mouvement actuel, il y a alors, je suis pas tout à fait d'accord. Derrière, effectivement, cet accord de surface, on dirait, sur les modalités d'action, sur ces grandes manifestations, ces protestations qui parfois dégénèrent et des revendications très radicales, se trouve encore aujourd'hui une multiplicité de formes de mobilisation. Parce que Black Lives Matter, là, effectivement, est présenté systématiquement comme l'organisation, la mouvance à l'origine des manifestations qui parfois peuvent dégénérer en violence, mais derrière cela, il y a toute une action de mobilisation dans des quartiers, de formes de sensibilisation, de lobbying à l'échelle locale pour essayer de faire entendre leur voix à l'échelle d'un conseil municipal, etc. Donc il y a toute une panoplie encore de modalités d'action qui sont utilisées et qui effectivement ne font pas forcément toujours la une des journaux, mais qui permettent d'enrichir ce voilà ce répertoire ouais. d'action des militants et des militantes de Black Lives Matter. Et au-delà de Black Lives Matter, il y a c'est pas juste une organisation, c'est vraiment un mouvement large, une mouvance dans lequel on retrouve de multiples modalités d'expression.
Didier Combeau, je vous demanderai s'il vous plaît une réaction relativement courte, même si je vous laisse vous exprimer évidemment, et ensuite on va prendre la direction de New York, on va retrouver Ibrahim Bechrouri.
Oui, Caroline Orland-Diamond vient de parler de quelque chose de très important, c'est l'aspect local. Hein. On oublie souvent qu'aux États-Unis, il y a 18 000 polices hein, de départements qui ont 5-10 policiers jusqu'au département de la ville de New York qui en compte 30 000. Et il y a beaucoup de choses qui se produisent au niveau local, comme on le voit en ce moment à Minneapolis, avec des associations locales et le mouvement Black Lives Matter est beaucoup plus décentralisé que les mouvements qu'on a connus dans les années 60.
On est avec vous Didier Combeau et vous Caroline Roland-Diamond dans cette série consacrée aux colères sociales, le grand déconfinement. Aujourd'hui on parle des États-Unis et du retour de la fracture raciale. Vous parliez de New York, on va prendre justement la direction de New York.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Beaucoup vont essayer de nous diviser, monter un type de New-Yorkais contre un autre. Je n'y prendrai pas part. Je m'en fiche si un New-Yorkais est un simple citoyen qui marche dans la rue ou un officier en uniforme. Nous sommes tous New-Yorkais. Hier, nous avons connu beaucoup de conflits dans certaines parties de la ville. On va en parler ouvertement aujourd'hui. Nous ne l'acceptons pas, nous allons combattre ces problèmes, nous allons y remédier.
Voilà, cette voix, c'était celle de Bill de Blasio, le maire de New York. New York, où il y a eu des manifestations particulièrement soutenues ces derniers jours, avec de vives tensions, des violences. Mais il y a aussi eu des gestes de solidarité très forts entre policiers et manifestants, avec des policiers qui ont posé un genou à terre et qui se sont joints aux revendications. On va essayer de comprendre le rapport à la question raciale de l'une des plus vieilles institutions policières du pays. Et la plus importante aussi en termes d'effectifs. Moi, j'ai lu sur la fiche Wikipédia plus de 55 000. Bonjour Ibrahim Bechrouri, en direct de New York.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être Bonjour. Avec nous ce matin. Vous êtes doctorant à l'Institut français de géopolitique. Vous enseignez à la City University de New York. Votre thèse porte sur la lutte policière contre le terrorisme. Et comme ce sont les mêmes unités qui font du maintien de l'ordre aujourd'hui, vous êtes de facto un bon connaisseur de cette police à New York. D'abord, est-ce que vous diriez qu'il existe effectivement une spécificité à New York vis-à-vis de cette question des violences policières? Et si oui, qu'est-ce qui fonderait cette spécificité, Ibrahim Bechrouri?
Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, bien sûr. Ce que je voudrais dire en termes de spécificité en ce qui concerne la ville de New York, c'est que c'est une ville qui a une histoire de violence policière. Une histoire récente de violence policière avec Eric Garner en 2014 qui est tué par un officier de police de New York et qui prononce les mêmes mots avant de mourir que George Floyd. « I can't breathe, je ne peux pas respirer ». Qui est également plaqué au sol, qui subit également la technique du plaquage ventral et qui, du coup, décède par la suite. Et puis, il y a une histoire un peu moins récente qui remonte aux années 90 où le NYPD s'est engagé dans des tactiques policières beaucoup plus violentes pour lutter contre le crime à New York à la fin des années 80 et au début des années 90 avec des politiques de la tolérance zéro et qui ont abouti, l'apogée, si on peut dire, a été atteinte en 1999 avec le meurtre d'Amadou Diallo. Amadou Diallo, qui était un immigrant noir de la région ouest africaine, je crois qu'il était sénégalais. Et il a été tué par la police, et il a été tué par la police d'une manière assez horrible. C'est-à-dire qu'il a reçu 41, enfin, on lui a tiré dessus 41 fois. Il a reçu des balles, même en dessous, on a retrouvé des impacts de balles sous sa chaussure. Puis il y a une histoire beaucoup plus vieille de violence policière à New York, avec un département de police qui a été très violent avec le mouvement des droits civiques, violent dans sa répression, mais aussi violent dans la manière dont il a pénétré ces mouvements, infiltré ces mouvements, et éventuellement dans la manière dont il a, à plusieurs reprises, créé des tensions dans ces mouvements, pris au piège certaines personnes dans ces mouvements, etc. On pourrait bien sûr en parler, mais je crois qu'on est limité par le temps.
En l'occurrence, Amadou Diallo était originaire du Libéria, un jeune homme de 23 ans originaire du Libéria. Est-ce que Ibrahim Bechrouri, on a vu ces derniers jours circuler des images de policiers new-yorkais poser le genou au sol en solidarité avec les manifestants. Comment vous avez interprété, vous, ce geste? Est-ce que c'est une une solidarité réelle, sincère? Est-ce que ça cache une réalité moins reluisante? Est-ce qu'on est dans de la communication? Vous, comment vous interprétez les choses? Sachant, et je vous laisse évidemment poursuivre, sachant qu'évidemment on a en face de cela aussi une certaine gestion aujourd'hui des manifestations du côté de New York où il s'agit de faire un maintien de l'ordre qui peut avoir, disons, une approche racialisée du maintien de l'ordre. Ibrahim Meshoury.
Bien sûr. Je pense que, alors bien sûr au niveau individuel, on peut toujours trouver un officier, une officière de police qui se joindrait au mouvement de protestation de manière sincère. Maintenant, il faut comprendre que la police de New York, c'est aussi une communication très maîtrisée. Une communication très maîtrisée qui passe par un certain nombre de supports visuels qui sont diffusés sur les réseaux sociaux par les policiers eux-mêmes, qui sont invités à créer des comptes Twitter officiels en tant que policiers et à poster sur leurs activités quotidiennes, et surtout à poster des choses positives sur leurs activités quotidiennes. Donc,
on les pousse pas à mettre le genou à terre. Ils le font volontairement, intentionnellement.
On les pousse peut-être pas à mettre le genou à terre, mais c'est également une possibilité que le département de police invite les officiers à montrer une certaine solidarité envers le mouvement pour calmer peut-être les moments de protestation. Mais ce qu'il est intéressant aussi de dire à ce sujet-là, c'est que pour avoir plusieurs amis qui ont été à ces endroits précis en fait où ces choses-là ont eu lieu, où des personnes des officiers de police ont posé les genoux à terre avec les manifestants. Il faut savoir que quelques heures après, ou quelques minutes parfois après, la police est intervenu violemment envers ces mêmes poches de protestation qui pouvaient exister à New York. Mm-hmm. Donc c'est une stratégie qui a ses limites. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait, à mon sens, de manière stratégique, comme un objet de communication, mais également comme une manière de montrer une solidarité envers le mouvement pour peut-être le calmer, d'absorber peut-être le mouvement et montrer que la police n'est pas au final du mauvais côté de la barrière, on n'est pas toujours du mauvais côté de l'histoire, mais elle a ses limites dans le sens où la police revient, en tout cas la police de New York en particulier, revient très rapidement à des formes de répression très violentes de ces mouvements sociaux qui sont largement pacifiques à New York par ailleurs.
Ouais. Et je rappelle que vous habitez New York et que vous avez vraiment l'habitude d'observer des manifestations et de regarder justement comment les policiers les encadrent. Donc vous êtes, si je puis dire, aux premières loges. Vous restez avec nous parce que je voudrais faire intervenir Didier Combeau peut-être sur l'un des points que vous avez évoqué, à savoir peut-être cette idée que du côté des institutions policières, on inviterait les officiers de police à montrer une forme de solidarité à l'égard des manifestants, ce qui par ailleurs est pas forcément un crime. Hein. Je veux dire, on dénonce Donald Trump quand il appelle, quand il produit de la division, appeler à l'unité, appeler à la solidarité, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais Didier Combeau, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la communication politique quand des policiers à New York mettent le genou au sol, Didier Combeau?
Alors, sur ce cas particulier des policiers qui mettent le genou au sol, je n'ai pas d'information particulière, mais ce qui est certain, c'est que tous les départements de police ont un souci de communication, cette nécessité dont tout le monde a pris conscience de rapprocher la police des populations s'est traduite entre autres par des efforts de communication, effectivement. Alors, qui sont plus ou moins sincères, hein, mais aucun chef de département de police n'a envie de se retrouver au journal télévisé parce qu'il y a eu un abus commis par un de ses agents. Donc on peut penser quand même que de la part de la hiérarchie, il y a une véritable volonté. Ouais. Et puis de la part des villes aussi, il y a une véritable volonté. Parce que on a vu, il y a deux ou trois ans, par exemple, la société Amazon qui a mis les villes en concurrence pour y implanter un siège social. Et d'ailleurs, il a été question de l'implanter à New York. Et les villes tiennent beaucoup à leur image. Donc pour des questions économiques, c'est extrêmement important d'avoir une bonne image. Et puis surtout, les bavures policières sont très coûteuses. Hein. En 10 ans à Boston, la ville a consacré 36 millions de dollars en dommages et intérêts pour des abus policiers. La ville de Los Angeles, 100, et Chicago, même plus de 500 millions de dollars en 10 ans. C'est extrêmement coûteux, et donc les villes ont intérêt à réformer leur département de police.
Oui, pour ce qui est de New York, par exemple, la fameuse affaire Eric Garner qu'évoquait à l'instant notre invité, la mairie de New York a versé 6 millions de dollars d'indemnisation à la police. Toute dernière question, Ibrahim Bechrouri, si vous voulez bien. Je voudrais vous entendre sur la question de Bill de Blasio, le maire qu'on a entendu au début de notre échange, qui est maire de New York depuis 2014. Son bilan, s'agissant des injustices raciales et des violences policières dans sa ville, Ibrahim Bechrouri.
Alors, ce qu'il faut comprendre avec Bill de Blasio, c'est qu'il a été élu sur un programme qui visait à réformer la police, à la rendre plus juste, à la rendre moins portée sur le profilage racial des populations. Il avait d'ailleurs inclus de manière très prononcée dans sa campagne son fils en particulier, qui est noir. Et il avait dit qu'il avait peur pour son fils, et il avait peur pour son fils quand son fils rencontrait la police. Ce qui s'est passé très rapidement avec de Blasio, c'est qu'il y a eu quelques réformes intéressantes, quelques réformes de surface aussi, des réformes cosmétiques plutôt que des réformes de fond. Mais il y a aussi eu une réforme de fond sur les stop and frisk avec une diminution des stop and frisk, des interpellations et fouilles. Une tactique qui est utilisée de manière massive par les départements de police aux États-Unis. Mais très rapidement, il a rencontré un mur, le mur en fait du NYPD, qui est une institution qui, en théorie, doit répondre au maire de New York, mais qui a aussi sa propre capacité à influencer, à déployer des outils de pouvoir à New York, qui a s'émancipé en fait d'une certaine manière de l'Amérique. Ce qui s'est passé en 2014, après le meurtre par la police d'Eric Garner, Bill de Blasio a pris position très fermement du côté des manifestants qui manifestaient contre ce crime policier. Et par la suite, les policiers qui ont par ailleurs subi en particulier deux pertes de la part d'une personne qui a dit vouloir se venger des violences policières envers les Noirs américains, ont entamé une grève, un slowdown, qui a commencé par tourner le dos à Bill de Blasio pendant l'enterrement des deux officiers qui ont été tués. Et ce slowdown, donc pendant deux mois, le NYPD a arrêté de faire autant d'interpellations, a arrêté de faire autant de travail sur la criminalité. Et parce que ce slowdown était très impopulaire, et parce qu'il fallait trouver du coup un terrain d'entente avec le NYPD, le maire de New York, Bill de Blasio, s'est positionné à partir de ce moment-là beaucoup plus en faveur de la police.
Oui, donc il faut. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une grosse difficulté à réformer, évidemment, et que du coup, ça oblige à une certaine, disons que on essaye de s'accorder et peut-être de mettre un petit peu d'eau dans son vin quand on se retrouve évidemment avec une grève comme celle qu'a dû affronter Bill de Blasio. Merci beaucoup en tout cas Ibrahim Bechrouri d'avoir été avec nous en direct de New York. On va s'intéresser à la question du sport. Je parlais justement de ce genou à terre. Ce genou à terre, il a une origine. Ça vient du monde du sport et en particulier de Colin Kaepernick.
Beaucoup de choses doivent changer, en particulier les violences policières. Les gens sont tués injustement et personne n'est tenu responsable. Les policiers obtiennent leur congé payé lorsqu'ils tuent des gens. C'est injuste à tout point de vue.
Voilà, le genou à terre, ce qui vient de ce joueur de foot afro-américain, Colin Kaepernick. C'est lui qui, en 2016, en pleine élection présidentielle, pendant l'hymne national, pose un genou à terre en signe de protestation contre le racisme aux États-Unis, contre les violences policières envers les minorités. C'est un geste qui fait encore parler de lui, évidemment, partout dans le monde. Est-ce que on va retrouver un nouvel invité, Nicolas Martin-Breteau? Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Lille et vous venez de signer un ouvrage consacré au sport, corps politique, le sport dans les luttes politiques des Noirs américains pour la justice. Il se trouve que il y a ce geste de Colin Kaepernick qui a provoqué tout de suite, tout simplement, la fin de la carrière de ce joueur. Est-ce qu'il faut y voir un lien entre les deux? Est-ce que, au fond, son engagement politique a signé la retraite sportive de cet homme?
Oui, absolument. Aux États-Unis, traditionnellement, on considère que le sport est une sorte de sphère apolitique qui devrait être protégé des débats politiques de la société englobante. Et évidemment, n'est pas exact. Et lorsque quelqu'un comme Kaepernick fait ce geste tout à fait inédit ces dernières décennies, en plein dans un match de football américain, pendant l'hymne national, et qu'il le répète plus tard avec des coéquipiers, eh bien, il y a quelque chose pour beaucoup d'Américains qui ressemble à une trahison au drapeau, une trahison à l'hymne national, une trahison, en fait, à la nation américaine.
Et est-ce que les choses pourraient changer, Nicolas Martin-Breteau? Parce que, justement, la Ligue nationale de football, à l'époque, n'aimait pas tellement hein, que les joueurs montrent comme ça cette solidarité et mettent un genou à terre. D'ailleurs, il y avait des amendes aux équipes dont les joueurs s'agenouillaient pendant l'hymne national. Et il se trouve que là, il y a quelques jours, on a entendu le patron de la NFL, de la Ligue nationale de football, Roger Goodell, qui, visiblement, a l'air de regretter un petit peu d'avoir été aussi rude avec, justement, ses gestes de soutien. Et qui invite même les joueurs à s'exprimer sur ce sujet. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de changer ou c'est purement conjoncturel et le business du sport va reprendre ses droits très vite?
Je pense que le geste de Kaepernick a changé les choses déjà à l'époque. Ensuite, le mouvement Black Lives Matter a renforcé le bien fondé, je dirais, de ces dénonciations. Et aujourd'hui, évidemment, les manifestations monstres aux États-Unis et à l'étranger pousse les responsables de la NFL à prendre des positions qui sont nouvelles pour elle, puisqu'on se rappelle, par exemple, que la NFL est une ligue qui est considérée, à droite. Hein, les spectateurs moyens de la NFL est plutôt susceptible, je pense, de voter républicain. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Donald Trump avait attaqué et même insulté publiquement Colin Kaepernick et les autres joueurs qui avaient fait ce geste de mettre un genou à terre dans les mois qui ont suivi. Donc je pense que le débat est effectivement en train de changer, car vous avez raison en fait. Plus qu'une question de morale, c'est aussi une question de business. Et la NFL ne peut pas rester silencieuse sur des affaires aussi importante que ce que nous vivons aujourd'hui.
Oui, et en même temps, si, comme vous le dites, elle a un public qui est plutôt situé à droite, elle n'aurait pas forcément intérêt à se montrer beaucoup plus ouverte.
Vous avez raison, mais d'un autre côté, l'émotion est telle, y compris dans de larges segments de la population qui ne votent pas nécessairement démocrate, que rester silencieux sur cette affaire est un risque bien plus grand que de ne pas le faire. Donc je pense qu'on a ici quelque chose qui est en réalité simplement le miroir de ce qui se passe dans la société américaine dans son ensemble, d'autant plus que la NFL parfois connaît des propriétaires d'équipes qui ont publiquement financé la campagne de Donald Trump. Donc vous voyez que le fait que les dirigeants de la NFL prennent ce genre de position reflète en fait, me semble-t-il, quelque chose qui est vraiment très profond en termes d'évolution sociale et politique sur ces questions.
Nicolas Martin-Breteau, avant le genou à terre, il y a eu le point levé, évidemment, du côté de Mexico en 1968, un geste qui était emprunté au mouvement des Black Panthers. Quelle ressemblance, quelle différence entre justement ce point levé de Mexico et ce genou à terre de Kaepernick?
Avant la différence, moi je trouve qu'il y a quand même des ressemblances. Et la ressemblance principale, me semble-t-il, c'est la grande dignité des deux gestes. Soit en 1968, le poing levé, ganté de noir, la tête baissée pendant l'hymne national, et aujourd'hui, le genou à terre, tête baissée pendant l'hymne national également. Ce sont deux gestes que leurs opposants politiques décrivent comme des insultes au drapeau et à la nation. Moi, j'y vois plutôt des signes de grande dignité, des manifestations dans le calme, qui essayent de montrer la légitimité des revendications séculaires, pas simplement récentes, des Africains-Américains pour la justice et l'égalité. Après, évidemment, les deux contextes sont très différents. Dans les années 60 et dans les années 2010, on n'a pas affaire à la même histoire. Néanmoins, ces deux gestes s'inscrivent dans, disons, une histoire de longue durée de revendications politiques portées par le sport dans la mesure où les Africains-Américains, les athlètes Africains-Américains, qu'ils soient d'ailleurs des hommes ou des femmes, ont souvent joué le rôle de leader politique aussi de leur communauté pour faire avancer la cause de tous.
Alors, je vais passer sur la dimension originelle de tout cela. Nicolas Martin-Bretot, que vous évoquez dans votre livre, qui est absolument passionnant, vous racontez cette première compétition où un noir va s'illustrer. On est en 1910 avec Jack Johnson, champion du monde des poids lourds, surnommé le géant de Galveston, qui va conserver d'ailleurs son titre ensuite en battant des blancs. C'est évidemment une première révolution des esprits, parce que avant cela, en réalité, on considère que les noirs sont inaptes au sport, et avec lui, les choses vont beaucoup changer. Un dernier point, Nicolas Martin-Bretot, sur la question du corps noir, parce que c'est l'un des grands thèmes de votre livre. Vous écrivez, je vais vous citer, les Africains-Américains mirent en place des stratégies d'élévation corporelle, faisant de la virilité, de la féminité, et plus généralement de la vitalité, de la beauté, de la dignité du corps noir, des enjeux cruciaux de leur lutte de libération. Lieu premier de la construction de la différence raciale, le corps noir fut aussi le premier lieu de la déconstruction de cette différence. C'est-à-dire que, alors que ce corps noir est considéré à l'époque comme anormal, je mets évidemment des guillemets, l'espace public va alors devenir un lieu propice par lequel on va exhiber justement ce corps, on va avoir un usage politique du corps. Et il était assez logique finalement que, eh bien, cet usage du corps, il s'épanouisse dans le sport, Nicolas Martin-Bretot.
Oui, vous résumez très bien.
Je vous ai lu surtout.
Non, non, mais c'est une bonne lecture. Je veux dire, c'est exactement ça. La caractéristique principale du racisme anti-noir, c'est un racisme qui vise des corps considérés comme inférieurs, stigmatisés parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont noirs. Et donc, si vous voulez combattre le racisme, d'après les Africains-Américains, notamment de la fin du 19e siècle et de tout le 20e siècle, il faut prouver que le corps noir est aussi digne de respect et donc de droit que le corps blanc. Le sport a été donc un vecteur de lutte politique. Mais il n'est pas le seul. On peut penser, par exemple, au cinéma, on peut penser à l'art, on peut penser à la cosmétique. C'est très important, par exemple, de penser que les femmes noires ont utilisé les produits cosmétiques, les produits d'embellissement de soi-même aussi, comme des modes de revendication politique. Donc, en fait, le sport est un élément de lutte politique parmi beaucoup d'autres. Mais, étant donné la médiatisation énorme des sportifs africains-américains sur le dernier siècle, eh bien, ce secteur de la société américaine a reçu évidemment une importance bien particulière du point de vue politique.
Et c'est pas seulement dans le sport professionnel, c'est aussi dans le sport amateur. C'est une des choses d'ailleurs qui vous tient très à cœur dans votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions de l'EHESS, Corps politique, le sport dans les luttes politiques des Noirs américains pour la justice. Un grand merci, Nicolas Martin-Bretot. If one of their men is so ferocious, don't worry about it. The disciples are now well aware of the fact that my kung fu is unbeatable. Brother, we trap! Shaolin hero, you must take command. Don't resist. You are a traitor. Avenge Master Death. I'm a product of the block. We used to cook the product in the pot. Add soda, turn the product into rock. It's in my DNA, you see, it started with my pops. In his heyday, he probably put your father in the box. In my heyday, I probably put the product in my sock. Ain't no vacay. The props become a problem when it's hot. Mayday, mayday, but no charge. I'm nutty with the bars, that's a payday. So, bro, this ain't even a bar, this is AA. Back up in the trunk. Et un grand merci à nos deux invités, Didier Combo, Caroline Roland-Diamond. Je rappellerai Caroline Roland-Diamond, Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice. Didier Combo, vous signez là, qui vient de sortir la semaine dernière, Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle. Tout ça, évidemment, à retrouver sur la page de Culture Monde. On poursuit demain nos colères sociales avec ce grand déconfinement des colères sociales. Demain, direction Hong Kong.